D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Le 15 février 2017 a été un jour très particulier dans l'histoire du monde. On a découvert les gestes d'un mort. Ce mort, c'était Proust. Un universitaire de Québec a identifié, dans un film de 1904 sur le mariage du duc de Guiche, ce personnage en redingote grise et chapeau melon noir. Le chapeau fait une barre d'ombre sur ses yeux, qu'on ne voit donc pas. On reconnaît pourtant la moustache circonflexe, les joues ovales. Il a l'air d'avoir 23 ans, il en a 33. C'est cet air juvénile qui faisait qu'on ne le prenait pas très au sérieux. Ça, et le fait même qu'il fréquentait ce milieu qu'on appelle le monde. Les gens du monde qu'il a bien connu et montré avec une férocité caressante dans son roman ont ceci de particulier qu'ils s'ennuient. S'ennuyant, ils cherchent à attirer des artistes parmi eux. Ils ont l'air si talentueux, si brillants. Et une fois que ces artistes ou ces écrivains sont entrés dans leur coterie, parce que leur snobisme consiste à en dire du mal en la qualifiant de frivole, ils trouvent, sans se le formuler, que l'artiste ou l'écrivain n'est pas d'une aussi grande qualité que ça. Les gens du monde sont des araignées qui, une fois capturée la mouche dans leur toile, diraient « peu, elle n'est pas tellement savoureuse ». De plus, en 1904, Proust n'avait publié que quelques articles flatteurs sur les mondanités de Paris dans le Figaro, et notamment sur le salon de la mère de la mariée, un recueil de nouvelles anodins, les plaisirs et les jours, et une traduction de la Bible d'Amiens de Ruskin, en réalité en grande partie faite par sa mère. Il n'a commencé à écrire à la recherche du temps perdu que 3 ans plus tard, en 1907, et le premier volume, Du côté de chez Swann, n'a paru qu'en 1911. C'est donc celui qu'on voit sortir de côté, un peu sautillant, un petit jeune homme charmant qui écrit d'interminables lettres sucrées aux gens socialement importants, lettres qui ont fait dire à un petit malin qu'il écrivait en sujet, verbe, compliment. Si on est juste, et tant soit peu perspicace, on peut remarquer que ces lettres sont à la longue tellement flatteuses qu'elles deviennent de la moquerie. Comme ce pas, sautillant et latéral. Proust était déjà le grand moqueur féerique qui s'apprêtait à hisser cela au génie. Et lui, que nous ne connaissions jusque-là qu'en photo, nous apparaît en quelque sorte plus ressemblant à son livre dans ses images filmées le 14 novembre 1904 qui ont été mises à la connaissance du monde ce faste jour du 15 février 2017. Quel est le secret professionnel de Marcel Proust filmé? Je reçois pour en parler Jean-Pierre Sirois-Trahan, professeur à l'université Laval à Québec, qui a identifié Proust dans ce film.
En fait, c'est Luc Fraisse, le directeur des études proustiennes, qui m'avait demandé de diriger un numéro sur Proust et le cinématographe, donc le Proust et le cinéma avant 1922. Et donc, j'ai commencé à en parler tout simplement dans des colloques à des chercheurs, des amis, en leur disant s'ils voulaient participer à ce numéro spécial. Et je crois à Cerisy, la directrice de Bois d'Arcy m'a dit, justement, il y a un film d'un mariage d'un ami de Marcel Proust. On pense que Proust était là et on n'en sait pas plus. Et donc, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me suis dit, en retournant en France, il faut que j'aille à Bois d'Arcy. Entre-temps, je leur ai posé la question. Ils m'ont dit, oui, finalement, on ne croit pas que c'est Marcel Proust, mais vous pouvez quand même aller voir à la Bibliothèque nationale. Le film était disponible depuis probablement de nombreuses années. C'est un film qui a été déposé en 95, je crois, par la famille Gramont, c'est-à-dire, le fils d'Armand de Guiche. Et donc, je suis allé voir le film à la Bibliothèque nationale et la première fois que j'ai regardé le film au complet, j'ai pas reconnu le petit Marcel, mais en le revoyant, en faisant des arrêts sur image, à un moment donné, la 37e seconde sur la vidéo, je me suis dit, ça y est, c'est lui. Et par la suite, en fait, que j'ai dû faire, c'est de la recherche en archives, essayer de reconstruire le contexte, essayer d'apporter des preuves robustes, parce que c'est pas évident que une image ne dit pas forcément, n'ancre pas forcément le sens, et donc à moins qu'il y ait que ce soit un homme sandwich avec écrit je m'appelle Marcel Proust, c'est difficile d'avoir une preuve absolue. Et donc j'essaie de trouver des preuves indirectes les journaux.
On va y arriver. Quand vous dites Bois d'Arcy, qu'est-ce que c'est Bois d'Arcy?
Bois d'Arcy, c'est un endroit en fait où le Centre national de la cinématographie française stocke les pellicules nitrates. Donc c'est Bois d'Arcy, c'est un ancien fort où on gardait des explosifs probablement au 19e siècle. Et donc les pellicules nitrates, c'est des explosifs, c'est il y avait beaucoup de feux à l'époque, c'était très dangereux. Et donc, on ne peut pas stocker ce genre de pellicule un peu partout. Et donc, la pellicule 35 mm de 1904 du mariage d'Armand de Guiche est à Bois d'Arcy, en fait.
Alors, c'est un film de 35 mm en noir et blanc et muet, bien entendu, long, je crois, de 34 mètres et qui est intitulé à Bois d'Arcy sous l'intitulé film numéro 41453, film de famille, mariage d'Armand de Guiche et d'Hélène Greffeuille. Alors, où se passait ce mariage?
Le mariage se passe à l'église de la Madeleine, à Paris, qui est l'église de la famille Greffeuille. C'est dans le quartier également de Marcel Proust à l'époque. Donc, c'est un immense mariage. Il y a plusieurs centaines de personnes qui se présentent. C'est vraiment le Gotha parisien, donc le Faubourg Saint-Germain, les gens les plus en vue. C'est aussi, en fait, un Gotha qui, à mon avis, doit être un peu retiré. C'est pas le tout Paris qui s'affiche. Ça doit être des gens un peu secrets. Et donc, c'est vraiment le...
Un peu secret dans quel sens?
J'ai l'impression que c'est pas des gens qu'on voit dans les journaux constamment, en fait. Pour avoir fait des recherches, on entend parler de temps en temps de la famille Greffeuille, mais le Faubourg Saint-Germain, en général, c'est pas le tout Paris, c'est des gens qui sont un peu au-dessus, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la recherche, c'est des gens qui essaient d'attirer les regards par une certaine distance, un certain retrait. La comtesse Greffeuille, qui était vraiment quelqu'un d'important, mais qui détestait voir des photographies d'elle dans les journaux, etc. Donc, ce n'est pas des « people », comme on dirait aujourd'hui. Et d'une certaine façon, le mariage est un passage obligé. Ils sont obligés de faire un grand mariage, mais je ne crois pas que c'est des gens qui veulent absolument apparaître constamment dans les médias.
Bien sûr.
Le film est vraiment pour la famille. Hein. C'est un film amateur... probablement tourné par des professionnels, mais c'est le film amateur au sens, c'est un film de famille.
Qui sont le marié et la mariée?
Armand de Guiche est un ami de Marcel Proust. C'est un scientifique, c'est quelqu'un qui peignait également. Il se tient beaucoup avec des écrivains, des peintres. Il y a toute une bande d'aristocrates autour de Marcel Proust.
Et qui était Hélène, la fille de la comtesse Greffeuille?
C'était... essentiellement la fille de la comtesse, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'un peu effacé par l'éclat de sa mère, j'ai l'impression, et on le voit dans le film, en fait, elle est un peu, elle paraît effacée dans le mariage, sa mère a l'air très grandiloquente, très un peu impératrice quand elle descend les marches. Elle passe pour avoir écrit un recueil de poésie à 5 ans, préfacé par Robert de Montesquieu.
Comme tout le monde, si je puis dire.
Oui, donc un enfant prodige, mais en même temps, est-ce que Montesquieu n'est pas un peu derrière tout ça? J'en ai aucune idée, et elle va publier également, à peu près à cette époque, en 1920, un deuxième recueil.
Et puis la cérémonie, on sait que la cérémonie a duré 2 heures, on sait que c'est personne moins que Gabriel Fauré qui tenait les grandes orgues, ça on ne le voit pas sur le film. Et ce qu'on voit, donc il faut que vous nous décriviez un peu ce qu'on voit, Jean-Pierre Siroitran, c'est la sortie de l'église avec des Suisses empanachés et des messieurs très importants à chapeau claque et habits noirs et des dames qui ressemblent à des apicultrices qui sortent de l'église les uns après les autres, c'est ça?
Oui. En fait, on voit donc la fin du mariage, la sortie du défilé, tout simplement, qui se passe à l'arrière de l'église, probablement parce que c'est un défilé très, très long, donc très compliqué. Et on voit surtout le début, en fait, il y a quelques coupures, donc il y a quelques montages in caméra. On arrête la manivelle et on repart. Donc, on doit avoir environ 1 minute et demie du début du défilé avec quelques ellipses, en fait. Et on voit donc les mariés, les parents des mariés croisés, c'est-à-dire que le père de l'un est avec la mère de l'autre, etc., et inversement. Et on voit ensuite quelques aristocrates qui descendent. On voit aussi des photographes et un photographe stéréoscopique qui prend des images en 3D, des plaques stéréoscopiques fixes. On voit donc quelques personnes dévaler l'escalier. Il y a un tapis rouge, le tapis est noir parce que c'est de la pellicule orthochromatique, donc le rouge devient noir. On voit très bien que les aristocrates descendent sur le tapis rouge et que les gens qui veulent aller plus vite, qui veulent couper la file ou les photographes, eux, descendent sur les marches à côté, en fait.
La famille avait donc engagé quelqu'un pour filmer. Je présume que c'est une chose très rare en 1904. Est-ce qu'il existe beaucoup dans les archives de films de mariages comme ça, de familles importantes?
Des mariages d'aristocrates, de rois, oui, certainement. En fait, des actualités de l'époque. Des films de famille comme ça, un peu amateurs, il en reste très peu. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Chez les gens très fortunés, ça devait être une façon de se distinguer, par exemple. C'est souvent des films qui sont perdus. Il y a 80% des films muets qui sont perdus à peu près aujourd'hui. Et donc, les films de famille, ça doit être encore plus élevé comme perte. Après 2 générations, ça n'intéresse plus tellement les gens ou les archives. Donc, c'est assez exceptionnel d'avoir ce genre d'archives. La famille Gréful, en fait, il y a plusieurs films, je pense au moins une vingaine de films de la famille. C'est surtout des films de chasse avec des rois, le roi d'Espagne, etc. Donc, c'était rare probablement, mais peut-être moins qu'on pense aujourd'hui, en fait, puisqu'il en reste très, très peu.
En tout cas, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel qu'on ait pu retrouver ce film. Mais comment se fait-il, alors que Dieu sait que Proust est fouillé, refouillé et surfouillé depuis très longtemps, depuis au moins 1954, qu'on a réédité en partie ses livres.
Oui.
Comment se fait-il que personne n'ait été fouillé dans les images filmées de gens qu'il avait connus, d'après vous?
Très difficile à dire, en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le film, mais qui, soit qui ne l'ont pas reconnu, soit qui n'avaient pas les moyens de détailler l'hypothèse. Je crois aussi que c'est lié au fait qu'on a une certaine image de Proust qu'on se fait par la lecture, et ça cadre pas forcément avec la réalité, si tant est que c'est Proust. Et donc, cette première chose. L'autre préjugé, c'est de se dire, s'il n'existe pas de film de Proust, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Et donc, si on ne connaît pas de film de Proust, c'est qu'il n'y en a pas. Et en fait, si on avait filmé Proust en 1920, il était très connu, il y aurait eu une mémoire de ça. Mais Proust en 1904, c'est pratiquement personne. Donc, les gens ne se souviennent pas en 1920 que Proust a apparu dans un film en 1904. Donc, même les gens qui l'ont connu n'ont pas dû se souvenir de ce détail. Le film était caché aussi pendant des décennies dans la famille Gramont. Souvent, ce qui arrive, c'est quand on retrouve une archive, on retrouve un film, on en retrouve plusieurs par la suite. Ça pousse les gens, en fait, à fouiller davantage. Et à mon avis, si on prend la biographie de Proust et on voit à tous les endroits où il était, c'était quelqu'un d'assez mondain quand même à cette époque, je pense qu'on va retrouver quelques films de lui dans les prochaines années. Ça ne me surprendrait pas. Je crois que je vais le trouver dans un autre film. Donc,
Comment vous croyez? Vous êtes déjà sur une piste?
Je suis déjà sur une piste et en même temps, je ne veux pas devenir le spécialiste des films de Proust. C'est pas mon but dans la vie. Mais ce qui serait intéressant, en fait, c'est que si on retrouve un autre film avec quelqu'un, avec un personnage dont on croit qu'il est Proust. On va pouvoir comparer les deux films et on va avoir une preuve quasi certaine que c'est bien Proust, c'est le même personnage dans les deux films.
Attendez, donc, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Quelle est cette piste que vous suivez dans quel film pensez-vous avoir revu Proust?
En fait, on sait que Proust a assisté au procès de Dreyfus. Et donc, il y a forcément des films d'actualité du procès. Et donc, j'ai entendu, en fait, sur Internet, j'ai lu quelqu'un qui disait que il y avait Proust dans un film d'une actualité de Dreyfus. Et donc, j'essaie de voir, mais à temps perdu.
Vous ne l'avez pas encore vu?
Non, pas encore.
Nous allons maintenant entendre Elisabeth de Gramont, sœur du duc de Guiche, au mariage de qui Proust a donc été filmé. Elle parle de lui dans un entretien enregistré le 1er janvier 1950.
J'ai écrit il y a un an un livre sur Marcel Proust, mais 2 ans après sa mort, j'avais écrit un premier volume intitulé « Robert de Montesquieu et Marcel Proust ». Et depuis, il y a eu 80 autres volumes qui ont paru sur le même sujet.
En effet. Et vous avez, je crois, beaucoup connu Marcel Proust.
Beaucoup, non. Mais très bien, oui.
Oui, parce qu'en effet, il était difficile, je pense, de le connaître beaucoup. Il était très fuyant, n'est-ce pas?
Très difficile et très compliqué.
Et comment était-il?
Eh bien, quand on le voyait, on avait l'impression d'un être fascinant et qui ne semblait pas appartenir à l'humanité ordinaire. Il possédait ce qu'il appelait lui-même un sixième sens, ce qui lui permettait ses investigations inouïes, avec l'aide de la mémoire involontaire, la seule, disait-il, qui vraiment avait de l'importance. Et avec elle, il atteint un état extra-temporel et il sent dans les profondeurs de son être où la seule intelligence n'a pas de prise.
Et puis-je vous demander s'il était snob?
Eh bien, écoutez, c'est comme si vous demandiez si Degas était débauché parce qu'il aimait surtout dessiner des ballerines, ou s'il était joueur parce qu'il aimait surtout les champs de course et regarder les jockeys, oui. Et puis les chevaux. Il n'était pas snob, mais il se plaisait particulièrement dans cette région, dans ce public spécial qui existait il y a bien longtemps. Et oui. Là, il était un enfant chéri, choyé, il s'y plaisait, c'était en somme son champ d'observation.
Et est-ce que vous le voyez encore quand il s'est retiré du monde?
Oui, par moments, d'une façon intermittente, je le rencontrais, il venait me voir le soir, vers minuit, il descendait chez moi. Oui. Et toujours, c'était un être absolument éblouissant. Et il me disait lui-même qu'il avait eu beaucoup de peine à transporter, avec des mots intelligibles,
oui.
le monde de sensations et de perceptions qu'il possédait. Vous savez qu'il était un magicien et un voyant. À l'hérédité terrienne de sa famille, les Proust avaient habité Illier, dans la Beauce, pendant près de 5 siècles. Eh bien, il avait également l'hérédité de sa mère, qui était juive, et il me semble qu'a passé en lui quelque chose des grands prophètes hébreux, et c'est ça qui lui a donné le sens de l'universalité. Et puis, il était tourmenté, désespéré même. Il est toujours frôlé par le sens du néant. Il n'a goûté vraiment quelque félicité que dans la création artistique, ou bien au contraire, quand il regardait des beaux tableaux, écoutait des belles musiques et avait sensation merveilleuse de la beauté.
Jean-Pierre Siroitran, vous parliez tout à l'heure d'étayer l'hypothèse de Proust dans ce film qu'on aperçoit très brièvement, car il dure 3 secondes. Sur un film de combien de temps? Quelle est la durée totale du film?
Aujourd'hui, c'est, je pense, 1 minute 40, mais ça ne correspond pas à la durée à l'époque, le film étant accéléré. Les films à l'époque, on tournait la manivelle, donc la vitesse variait selon les opérateurs. La vitesse variait à la projection selon les projectionnistes également, puisque c'était également la manivelle. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est 34 mètres. 34 mètres, c'est environ 1 minute 40.
Comment sait-on que Proust était à ce mariage?
On sait par plusieurs pistes. Premièrement, les journaux en parlent. Les journaux listent les gens qui sont au mariage, qui ont donné un cadeau au couple. Et on dit aussi dans les journaux, les gens qui ont donné des cadeaux étaient pratiquement tous au mariage, sauf quelques rois européen. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il parle du mariage avec Armand de Guiche dans une lettre. Il dit « J'ai parlé avec votre belle-mère, la comtesse Gréful, et donc c'est à peu près certain qu'il était là. » Je crois qu'il raconte qu'il est arrivé en retard, donc il n'était pas au début. Heureusement, il était à la fin, donc on a pu... si le film avait été tourné au début du défilé, avant d'entrer dans l'église, on n'aurait pas eu Proust sur l'image.
Alors, outre la ressemblance physique, qu'est-ce qui vous... Et le fait qu'on sache que Proust était présent au mariage, qu'est-ce qui vous fait dire que ce personnage qu'on voit sortir est Proust?
Je pense pas qu'on peut dire absolument que c'est Proust, c'est-à-dire qu'il y a des preuves assez robustes que c'était lui. On peut pas dire que ce n'est pas lui, à mon avis. On ne peut pas dire que c'est lui absolument, comme une croyance, etc. Je crois qu'il faut rester un peu agnostique. Moi, je suis à peu près certain que c'est lui, à 90%, disons. Donc, la première chose, c'est la ressemblance qui est vraiment frappante de face, avec ce visage ovale qui se termine en pointu, et de profil, avec son nez aquilin, ses oreilles vers l'arrière, assez grandes, etc. Donc, le visage de profil et de face est très, très semblable. La deuxième chose, c'est qu'il était au mariage. La troisième, c'est que... en fait, une des recherches que j'ai faites, c'est d'essayer de voir comment Proust était habillé à l'époque. Et effectivement, il y avait cette redingote gris-perle, tourterelle, j'ai entendu aussi sur les ondes dernièrement. Et ce chapeau melon également fait partie de la façon qu'il s'habillait. Le fait aussi qu'on sent qu'il y a un côté un peu dandy, tiré à quatre épingles, etc. C'est pas quelqu'un de tout à fait commun qui descend les escaliers.
Pardonnez-moi, oui. il n'est pas tout à fait dandy. S'il l'avait été, il aurait porté un habit. Et là, justement, il a une redingote plutôt de ville. Il est un peu sous-habillé par rapport aux autres invités, non?
Non, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont une redingote. Mais je crois que cette attitude d'être décalé fait quand même dandy. Dans la recherche, on parle que tous ses amis aristocrates, un peu dandy, s'habillent avec une redingote, gris-perle et un chapeau melon. Donc, on peut voir aussi, par exemple, la photo très célèbre de Montesquieu avec sa canne. Il y a aussi une redingote gris-perle. Donc, il y a quelque chose qui... c'est pas un habit de tous les jours quand même, et on le voit par la qualité du tissu aussi. Ça me paraît assez clair.
Il y a une anecdote assez amusante à propos de ce mariage, et là qui est au début du mariage et pas à la fin où les films se voient, c'est que Proust raconte dans une lettre que le duc de Gramont, donc le père du marié, le regardait signer le registre, et sachant qu'il était écrivain, il était très très inquiet de ce qui risque d'être trop long, et il dit à Proust: votre nom, monsieur Proust, mais pas de pensée.
Oui. Ça, c'est aux fiançailles, en fait.
C'est aux fiançailles?
Oui, quelques semaines plus tôt. Et donc, Proust est complètement décalé en habit, c'est-à-dire l'habit noir avec le nœud papillon noir, le huit reflets, etc. Et d'une certaine façon, au mariage, si c'est lui, il inverse le tout, en fait. Tout le monde est en habit et lui, il est plus décontracté ou plus dans sa façon de s'habiller de tous les jours, là.
Est-ce que lui-même a transformé cette scène du mariage dans À la recherche du temps perdu?
Je crois que oui, mais c'est une intuition que j'ai. Dans la scène qui se passe à Combray, où le narrateur rencontre la duchesse de Guermantes, il y a quand même beaucoup d'analogies entre la scène du mariage et donc cette scène dans la recherche. Le fait qu'il est complètement hypnotisé par la duchesse, le fait qu'il y a un tapis rouge aussi à l'église de Combray, ce qui est, c'est un peu, qui est probablement incongru. Le fait aussi qu'il y a un Suisse, on voit un Suisse dans le film. Bon, il y avait, j'imagine, des Suisses dans toutes les églises. Mais en tous les cas, on a l'impression que cette apparition de la duchesse de Guermantes ressemble un peu à cette apparition extraordinaire de la comtesse Greffel dans le film. On sait aussi, dans la recherche, il demande souvent la carte photographique de la duchesse. Et il l'a demandé également, probablement au mariage à la comtesse Greffel. Donc, c'est peut-être les deux souvenirs, en fait, transposés, bien sûr. Il y a une réfraction de la vie dans la fiction, comme partout dans la recherche. Mais j'ai l'impression, en fait, que c'est les restes diurnes qui sont transposés dans la machine littéraire, en fait.
Diriez-vous avec moi que cette découverte de Proust mouvant, et d'ailleurs si émouvante, est ouais. bien plus qu'anecdotique, dans le sens où elle sort un homme qui avait été fétichisé par des images fixes telles que les photos, et le ouais. montrant bougeant, elle montre que les œuvres d'art ne sont pas des choses divines et fétiches, mais faites par des êtres humains.
Absolument. Je crois que, premièrement, il y a une émotion qui fait que le film est un peu comme une Madeleine, en fait. Et comme dirait André Bazin, le cinéma a ce pouvoir de présentifier le passé qui fait en sorte que ça devient une mémoire involontaire, mais qui n'est pas propre à chacun. C'est pas la mémoire intime de chacun. C'est une mémoire qui est objective, qui est... bien sûr, c'est un peu un mythe, mais on a ce sentiment très fort, en fait, de le voir en chair et en os et de pas le voir dans des poses composées, de la photographie, donc c'est assez différent. De la même façon que la comtesse Greffel, qui a l'air d'une petite chose mélancolique dans les photos de elle, a l'air assez conquérante dans le film. Elle descend les escaliers vraiment comme une reine, et c'est intéressant parce que dans la recherche, elle a cette ambivalence, en fait, d'être à la fois mélancolique et le centre d'attraction. Et quelqu'un de très, très fort. Donc, je pense qu'au-delà de Proust, même si on finit par se rendre compte que c'est pas Proust dans le film, c'est toujours possible, je crois que c'est un document fascinant sur le monde des Guermantes, le monde réel du Gotha parisien de l'époque, qui va être réfracté dans le milieu littéraire, en fait.
Jean-Pierre Sirois-Trahan, pour finir, le secret professionnel de Proust filmé, n'est-ce pas que maintenant il nous manque la voix de Proust? Alors, on a bien retrouvé un son d'Apollinaire puisqu'il y a un disque gravé. Est-ce que vous croyez qu'on va un jour ou l'autre trouver un disque gravé avec la voix de Proust?
C'est pas impossible dans la mesure où on retrouve de plus en plus de traces du passé, des archives qui étaient inconnues, qui sont remis au jour. Pour ma part, je crois que non. Je voudrais pas décevoir personne, mais la différence, c'est que on peut être filmé au hasard sans avoir vraiment connaissance. Je crois pas que Proust ait eu connaissance qu'il avait été filmé. C'est plus difficile à l'époque d'être enregistré par hasard. C'est en fait même impossible. Il faut vraiment être proche de l'appareil d'enregistrement. Et donc, il aurait fallu que Proust décide d'être enregistré, d'enregistrer sa voix. Et je ne suis pas convaincu de la chose. On devra probablement, même si ce n'est pas certain, se contenter de cette image, en fait. Et peut-être de d'autres images, puisque... s'il a participé à des événements qui ont été filmés dans les actualités, on va peut-être retrouver Proust dans 2-3 films dans les prochaines années.
C'était Secret professionnel, le 255e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel d'Ignacy Torf à la mairie du 1er arrondissement. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgrain, prise de son Cédric Châtelus, recherchina Aude Vassa. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.